Alors, je vous laisse, Fabienne, nous présenter un petit peu ce concept.
Oui. D'abord, je voudrais vous remercier.
On peut se rapprocher.
Peut-être remercier toute l'équipe de la Fondation qui nous permet de nous présenter. Le chef Guillaume Sourieux qui vient pour aussi témoigner. Et puis, des convives très agréablement conquis par la démarche du Sans Fourchette, Nazia et Luc qui sont à côté de moi. Alors, le restaurant, vous savez bien, c'est un lieu social, évidemment. Et on a entendu parler tout à l'heure qu'en fait, il y a quand même à peu près encore 90% de gens qui vivent à la maison. Donc, je pense que la convivialité et le partage peuvent se retrouver dans un restaurant et ça favorise totalement l'inclusion, le Sans Fourchette. Nous savons, en tout cas en ce qui nous concerne, combien les personnes s'isolent progressivement, à la fois par l'usage des couverts qui sont parfois délicats et difficiles, mais aussi par le fait de ne plus pouvoir discuter avec quelqu'un. Une dame disait quand elle venait, en fait, il n'y a plus personne qui m'invite. C'est la seule invitation que je reçois, le Sans Fourchette. Donc ça témoigne aussi de notre démarche. Le Sans Fourchette, c'est un concept, hein, en fait, qui a été créé de toutes pièces. Alors, dans la salle, vous avez le cofondateur qui s'appelle Richard Lepinge, il est là-bas. C'est une personne avec qui nous avons travaillé à l'initiative des chefs restaurateurs, parce que installer un concept comme celui-ci dans un restaurant, vous imaginez que c'est pas si simple. Et puis maintenant, le développer dans les écoles hôtelières, c'est encore un petit peu plus délicat, mais finalement, c'est quelque chose qui est en train de s'installer durablement, je l'espère. L'innovation, c'est aussi l'aspect intergénération. Et vous voyez qu'ici, on vient dans l'école appréhender la problématique du handicap invisible et aussi de comment j'apprends à utiliser mes couverts et comment je peux désapprendre par une maladie particulière et comment je peux faire finalement pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes. Il se trouve que les jeunes gens que nous rencontrons régulièrement, que nous avons un petit peu maintenant commencé à interroger, entre guillemets, par des questionnaires, sont très très intéressés par la démarche. 90% d'entre eux connaissent le nom de la maladie d'Alzheimer, ça fait partie de leur vocabulaire, mais seuls 60% savent à peu près qu'est-ce que le manger-main, c'est-à-dire utiliser une bouchée, la confectionner correctement, la prendre de façon à ce qu'on utilise le pouce et l'index ou le pouce et le majeur et qu'on le mette en bouche en une seule fois. Donc ce travail intergénérationnel, il est assez passionnant pour les personnes. Et puis la deuxième innovation, c'est le chef qui va en parler parce que c'est la bouchée gastronomique. Et puis les convives qui savent dire est-ce que c'est bon de venir au Sans Fourchette. Et c'est quoi le meilleur, le sucré ou le salé?
Le salé.
Oui, mais Nazia dit que elle aime les deux. Ce qui est intéressant, hein, c'est que finalement les assiettes retournent vides en cuisine. Donc il y a aussi un axe sur le gaspillage alimentaire qui n'est pas inintéressant. Je pourrais en parler des heures, vous avez bien compris, mais j'ai pas beaucoup.
Et puis surtout, on a envie de vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Voilà.
Et indirectement, je voudrais vous remercier, en tout cas, parce que c'est pas si simple de créer un concept, c'est pas si simple de l'installer, alors que l'art de la table force à faire en sorte que finalement l'art découvert, c'est quand même quelque chose à mettre en œuvre.
Bien, on a envie de demander à notre chef étoilé, qu'est-ce qui l'a vraiment séduit? C'est le défi, c'est l'idée derrière, c'est...
Déjà, ça part d'une histoire d'homme, parce qu'avec Richard, on a travaillé il y a quelques années ensemble dans un très bel établissement en Bourgogne. Donc, on se retrouve et on discute de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier où on vend vraiment du bonheur. Il n'y a pas beaucoup de métiers où les gens viennent et passent un bon moment. Donc, notre métier en fait partie. Et quand Fabienne m'a sollicité pour essayer d'amener de la gastronomie à des gens qui, peut-être, n'ont pas l'occasion au quotidien de le goûter, j'ai été tout de suite séduit. Parce que d'une petite bouchée, se dire on va faire une explosion en bouche, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait, et on va créer un moment de joie et des sourires sur les lèvres des gens qui vont déguster notre cuisine. Pour moi, c'était très important de le réaliser.
Et ça vous heurtait pas qu'on le manger mince, là vous disiez manger mince, c'est-à-dire le but c'est quand même de tout prendre avec les mains.
Oui, de l'entrée, quand on regarde un petit peu la restauration actuelle qui a évolué, avant on avait les plats avec les sauces et compagnie, maintenant on a des plats, plusieurs plats sur la table, les gens dégustent et pitent un petit peu à droite, donc c'est pas en, c'est en adéquation complète de faire des menus sans fourchette aussi. Moi je vois pas d'inconvénient à faire un jour dédié à ça. Quoi.
C'est ce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez pensé à le proposer à tous?
Bien sûr, on a pensé avec Fabienne, c'était à l'heure du jour, donc on avance doucement mais sûrement, et c'est évident qu'il faudrait même sensibiliser les amis restaurateurs pour dire ce jour-là, on fait ça. Mais avant toute chose, là, quand on a commencé au lycée hôtelier, en fait, à faire ce repas sans fourchette, c'était aussi pour sensibiliser les jeunes. Et les jeunes, c'est une génération nouvelle qui arrive dans notre métier, qui ne pense pas du tout comme nous, mais c'est leur façon de faire, et nous, c'est à nous de s'adapter maintenant, et c'était pour moi l'occasion de leur montrer aussi qu'avec 2-3 bouchées, on pouvait faire plaisir à des gens, et que le côté gastronomique n'avait aucun problème à se lier à ça, en fait.
Qu'est-ce que vous avez... On peut aussi interroger Luc, hein, qui est le mari de Nabila. Comment vous avez rencontré cette proposition et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça a produit chez vous?
La rencontre s'est faite avec Fabienne, qui est l'orthophoniste de Nazia.
Un peu plus près le micro, s'il vous plaît.
Alors, un peu plus près le micro. Attention, ouais. J'ai une voix qui porte, hein, donc avec le micro...
Alors, enlevez-lui le micro.
Donc la rencontre s'est faite avec Fabienne, qui est l'orthophoniste de Nazia, et qui nous a fait la proposition de venir découvrir le sans fourchette. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je vais être clair, c'est essentiel, absolument essentiel. On a entendu parler tout à l'heure de la gériatrie, de la maladie, et c'est vrai que je suis arrivé tard, mais pas une seule fois, on a abordé les autres aspects que la simple... technique de vivre, se laver, se doucher, s'habiller, mais aller dans un restaurant, rencontrer du monde, c'est tout ce qu'on a envie de faire. La maladie ne frappe pas à 75 ans, elle frappe pas à 80 ans, elle peut frapper à 50, 55, 60, 65, 70, 75. Jusqu'à ces âges-là, la seule envie qu'on a, c'est d'aller dîner, c'est d'aller déjeuner, c'est de rencontrer ses potes.
Et qu'est-ce qui vous empêche?
Qu'est-ce qui empêche de le faire? La maladie. La maladie, à un moment donné, elle réduit ces capacités-là, elle réduit, et cette maladie que l'on considère invisible, lorsque l'on est dans un restaurant et que d'un seul coup, on a une grande difficulté à prendre sa fourchette, à la tenir, à la confondre avec son couteau, à avoir des grosses difficultés de cette nature-là, elle devient visible.
Et là, il y a le regard qui se porte.
Et il y a le regard qui peut se porter, et on sait tous que le regard entraîne le stress, et on sait tous à quel point le stress est une catastrophe dans cette maladie. Donc, c'est plus une expérience, parce que c'est quelque chose qui est vivant aujourd'hui, et tant mieux, et je n'hésiterai pas à dire qu'il faut que ça se répande littéralement, faut que ça dépasse nos frontières, oui. Et oui, c'est essentiel.
Oui, l'idée est excellente. Après, on se dit que c'est des restaurants gastronomiques, donc pas accessibles à tous, là.
Alors, oui, effectivement, on peut aussi... Oui, effectivement. On peut aussi non pas le déplorer, mais parce que c'est quand même... Et là, il faut faire un petit coup de chapeau au chef. C'est que c'est toujours bon. C'est toujours très étudié, c'est toujours très élaboré. Et là aussi, c'est essentiel parce que mémoire, il y a le goût. Et le goût, ce goût-là, il entraîne aussi un tas de souvenirs. Il est plein de suggestions. Et donc... C'est vrai que c'est sans doute... Alors, je ne sais pas comment...
Mais oui, vous avez travaillé... Comment on travaille les saveurs, justement? Parce que vous avez été informé de... Il y a une évolution. Enfin, Fabienne va nous le confirmer. Il y a une évolution des goûts. Comment vous êtes informé? Comment vous en tenez compte? Est-ce que ça vous oblige à modifier, certaines presque habitudes?
Non, pour le sans fourchette comme ça, à grignoter, vous voulez dire?
Oui, même dans les saveurs.
Ma priorité, c'était de dire, j'ai des plats gastronomiques au restaurant, je peux très bien les adapter en bouchée et les faire découvrir à des gens en une seule bouchée, qu'en mangeant une fois, ils découvrent l'essentiel du plat. Et comme dit monsieur à juste titre, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle plein de choses. Voilà. Et dans notre corporation, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, où c'est un peu gastronomique, ça pourrait faire peur et les gens n'iraient pas. On a eu la chance d'être dans notre corporation, d'avoir des gens généreux quand même, qui savent s'adapter, et Fabienne les a sollicités, et nous a sollicités, et on a répondu présent, et je suis sûr que ça continuera pour justement adapter certains prix à certains menus pour, certaines fois, on ne dit pas tous les jours, bien sûr, mais pourquoi pas, il y en a plein qui font sur les restaurants du cœur, enfin, il y a plein de clauses à défendre, et celle-là en fait partie aussi, et je pense qu'avec la générosité des chefs actuels, on est capable de mettre quelque chose en place.
Oui, parce que j'allais vous dire, comment vous aider, comment ça s'est subventionné, tout ça c'est...
Alors, honnêtement, non, ce n'est pas du tout subventionné. Nous parvenons à décrocher des prix. Nous avons été honorés par 4 fondations, la Fondation Médéric Alzheimer, la Fondation de France, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et tout dernièrement la Fondation du Crédit Coopératif. Mais nous sommes à la recherche de fonds financiers pour pouvoir continuer notre travail auprès des lycées hôteliers sur un ensemble de dispositifs pédagogiques afin de sensibiliser justement cette jeune génération à créer, à continuer à créer. Parce que ce qui est intéressant, peut-être ce que Guillaume ne va pas... L'apprentissage d'un jeune qui est en capacité de faire une bouillabaisse à la fois dans une assiette avec une cuillère et une bouillabaisse en bouchée, techniquement, c'est un deuxième apprentissage. Et c'est un petit peu ça l'idée. C'est comment ouvrir son esprit au handicap invisible pour que demain, il ne soit pas confronté dans des milieux plus réservés comme les milieux de la restauration en EHPAD, où il puisse donner à voir la même chose, mais avec une forme différente. Et en lui donnant les moyens que ce ne sera pas péjoratif pour lui. C'est pas la roue de secours. Quand on sort d'une école hôtelière et qu'on va travailler dans la collectivité ou dans les milieux de maisons de retraite, c'est pas la roue de secours. Il doit être flatté pour le fait qu'il honore les gens à table, parce que c'est quand même 2 fois par jour, voire 3 fois.
Est-ce que la maladie altère la perception des goûts? Est-ce qu'ils sont modifiés? Est-ce qu'il y a des je sais plus comment ça s'appelle, des déformations
Ça peut se modifier dans le fait que la personne va plus apprécier certaines choses que d'autres. Alors, par exemple, pour Nazias, c'est le salé. Elle aime beaucoup le salé. Pour d'autres personnes, ça va être une tendance à être plus vers le sucré. Mais on s'est rendu compte, en fait, que dans la diversité de ce qu'on pouvait proposer dans les assiettes, finalement, des personnes qui n'honoraient pas le salé honoraient complètement le sucré dans leur totalité. Donc, ça, c'est le tout, c'est de gagner de l'autonomie pour qu'elles puissent manger correctement quand même.
Bien sûr.
Voilà, hein, c'est ça l'objectif.
Je n'aime pas monopoliser les questions. Oui, bien sûr, madame. Alors, est-ce qu'on a encore un micro où je fais passer le mien? J'appelle la régie juste pour savoir. Il y a encore un micro pour la salle? Bon, ben, attends, je vais me lever. C'est pas grave. Non, mais... Ah, non. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à me déplacer, ça se voit pas, mais j'ai un tour de dos. Alors, si je peux vous l'en prendre. Il me semblait qu'il y en avait un quatrième.
Merci. Alors, ce n'est pas une question, c'était juste vous remercier, parce que ça offre à ces personnes, excusez-moi, qui sont quand même en état dégradé et humiliant, d'avoir un moment de dignité. Ils sont au restaurant et personne ne les regarde. Ils sont comme tout le monde. Merci.
Merci, madame.
Oui, madame. Oui, le micro est juste là.
Bonjour. Alors, j'avais juste besoin d'une précision. Donc, moi, je suis orthophoniste et j'interviens aussi en EHPAD. Je me posais la question, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que l'association Le Sans Fourchette pense à un moment donné effectivement proposer un partenariat avec des EHPAD, avec des cuisiniers, des chefs cuisiniers d'EHPAD, parce qu'ils sont souvent déroutés et c'est pas facile pour eux. Et effectivement, enfin moi, bon, pour avoir à discuter avec certains d'entre eux, peuvent vivre aussi cette situation parfois comme une sorte de déclassement, alors que je pense qu'ils ont une place absolument centrale et fondamentale au sein des EHPAD.
Voilà. Donc le Sans Fourchette est porté par l'association Mémoire et Santé, qui est une association loi 1901 qui fait aussi d'autres démarches, d'autres actions. Le Sans Fourchette, il s'est développé aussi dans les EHPAD. Mais l'idée de ce que madame nous honore comme témoignage, c'est que nous souhaitons que les gens sortent au restaurant. Parce que il n'y a aucune raison que les gens ne sortent plus sous prétexte qu'ils vivent dans une situation particulière ou pas, qu'ils aient fait le choix ou pas. Toutes les personnes que nous avons rencontrées qui sont sorties de l'EHPAD pour venir manger au restaurant, voire même certaines pendant deux ans n'étaient pas sorties du tout de leur lieu de vie, le restaurant est un appel à sortir parce que c'est un endroit où on va aller manger. Alors d'autant plus si c'est adapté. pour le fait de pouvoir créer ce type de repas à l'intérieur de l'EHPAD, ça reste une problématique parce qu'il n'y a pas l'intendance derrière. Et je pense que la quantité de bouchées qu'il faut effectuer reste quand même une problématique. Ça, c'est une problème. Et puis après, il y a la tendance du chef à dire « j'accepte d'essayer avec le menu courant et de l'adapter ». Et nous, on a des moyens pour pouvoir les aider à concevoir quelque chose qui soit adapté à ce qu'ils font déjà et non pas quelque chose de différent qui pourrait ressembler à de la haute gastronomie qui doit être aussi exister à côté. Et de lui donner les moyens humains de pouvoir travailler décemment et de ne pas lui demander de faire 300 couverts comme on a eu fait dans une situation où il fallait qu'il fournisse 300 couverts au domicile, 250 couverts à la maison de retraite et tout ça tout seul. C'est impossible. Voilà, ça c'est une réalité où on avance un petit peu sur ces problématiques-là aussi avec les directeurs d'établissement. Mais il y a aussi des chefs qui sont très réfractaires et qui nous expliquent que c'est dévalorisant pour les personnes de manger avec leurs doigts, que c'est infantilisant, qu'il ne faut pas le faire, que c'est un retour en arrière. Et puis il y a aussi des soignants. Hein, voilà.
Oui, il y a lui qui n'est pas du tout d'accord.
Oui, alors pour l'avoir fait assez souvent maintenant, je peux vous dire que c'est très sympa, très amusant. C'est le fait de... Il y a le partage entre les convives. Je voulais préciser aussi qu'à la fin du repas, tout le personnel qui a travaillé sur le repas vient en salle et est applaudi. Essayez ça dans votre prochain resto, vous allez voir, ça a de l'effet. Et puis je voulais simplement rappeler qu'il y a encore beaucoup de pays au monde où on mange avec les mains.
Et il y a, oui, je vois plus. J'allais dire, et en plus, ça peut être décliné à de nombreuses autres pathologies, parce que malheureusement, un certain nombre de troubles sont associés à des difficultés de la prise en main de couverts. Et les familles et les larmes, l'émotion racontent aussi combien les familles se privent parce qu'elles ont peur. Oui, on vous fait repasser le micro, vous voulez prolonger. Allez-y. Attends, ouais.
J'ai amené ma maman avec quelques résidentes de l'EHPAD à un repas qui a été organisé. Il y avait une résidente qui a détesté, parce que peut-être que pour elle, elle n'en est pas encore à ce stade-là. Alors le généraliser en EHPAD, oui, mais je pense qu'il faudrait le faire en petit comité, parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent encore au couteau à la fourchette et qui mettent déjà entre eux, ils se regardent, hein, ils se critiquent, mais là, ça a été une catastrophe pour elle. Il a fallu demander la fourchette, le couteau, il n'y avait pas de souci.
Quitte à les mettre, mais oui, mais est-ce que mettre en difficulté les personnes, c'est plus...
Je crois que c'est une idée reçue. En fait, c'est une idée reçue. Si on se met dans une situation de l'aspect pratique, de saisir un aliment qui est conçu pour ça, pour le mettre en bouche, et que tout le monde fait pareil, au final, ça s'instaure. Si dans les pratiques de la personne, culturellement, ce n'est pas concevable, on respectera le fait de lui donner une fourchette. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est la personne qui va demander la fourchette qui va se retrouver toute seule. Puisque ce qu'on constate, c'est ce que les jeunes disent dans les écoles hôtelières, ils disent « Mais madame, si on nous demande une fourchette, on la donne ou on ne la donne pas ?» Alors on dit « Mais bien sûr, vous donnez la fourchette aux personnes qui demandent la fourchette, il n'y a aucun souci. » Et le résultat de nos 40 expériences, 3500 personnes servies, c'est 3 fourchettes. Donc il y a quand même sûrement un élément de point commun qui est d'utiliser sa main quand tout est adapté dans l'assiette. Même si ça peut paraître très particulier, parce que complètement décalé, complètement. Alors, il y a 10 ans, vous imaginez comment c'était décalé. Richard pourrait en parler et témoigner du décalage quand nous sommes arrivés dans le lycée hôtelier pour nous présenter, moi soignante, avec cette idée en tête et cette ténacité, d'expliquer au chef de travaux, écoutez, ça va être révolutionnaire parce que c'est demain pour vous, ces personnes, ce public et ce handicap. Pour en parler d'une manière un petit peu plus positive aussi, pour que on ne soit pas stigmatisé sans arrêt. Donc la fourchette, ça gêne personne en fait.
Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui au développement justifié, en tout cas mérité, de ce projet ? Est-ce que d'après vous, c'est vraiment des idées reçues ? c'est le manque de financement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à nous tous là pour vous aider à...
Alors, le financement, c'est sûr que effectivement, ça contribue beaucoup à ce qui nous freine aujourd'hui, c'est certain. L'idée reçue commence à évoluer. On est un petit peu copié, donc quand on commence à être copié, c'est que c'est bon, quoi. Hein ? Après le développement, on ne pourra le faire que si on est plus nombreux à œuvrer. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, petit à petit, quand les chefs nous font l'honneur de venir témoigner pour expliquer qu'il y a derrière tout ça quelque chose de très citoyen et de très éthique, ça ne peut que contribuer à faire avancer le concept. Qui n'est pas du tout réfractaire, lui, par contre, il a envie de progresser, de se mettre en œuvre. Et puis, on voit qu'il y a des cultures qui le permettent plus que d'autres. Ça, on s'en est rendu compte un petit peu aussi, bien sûr.
Un top chef sans fourchette, vous ne pouvez pas nous organiser ça?
Écoutez, si vous avez la bonne adresse, moi,
je vous la donne. Que... un bon top chef sans fourchette, ce serait bien. Hein.
Ah oui, ça peut être une épreuve, oui, c'est vrai.
Allez, on va écrire.
Quand on doit réaliser les menus sans fourchette, ça nous titille un peu les neurones. Et on se dit, comme on a quand même ce devoir de vendre du bonheur et du goût, qu'est-ce que je vais faire pour concentrer? Et en fait, dans les EHPAD, ça rejoint aussi, parce que c'est des bouchées qui sont faciles à manger. Donc, des gens qui ont peut-être du mal à mâcher, etc., vont se retrouver aussi dedans. Donc, c'est pas anachronique de proposer ça non plus. Voilà.
Non, on a tous très envie de goûter. Je sais pas vous ici, mais... on est tous d'accord. On va vous appeler.
Le prochain rendez-vous, Fabienne, qui s'annonce.
Le prochain rendez-vous, c'est donc le 8 décembre. Pardon.
On va prendre une petite dernière question. Oui, là, on vous fait parvenir le micro.
Bonjour. Donc apparemment dans la salle, je fais partie des rares qui a pu participer à cette expérience. Je suis la responsable du Fil Rouge Alzheimer, qui est une plateforme d'accompagnement et de répit sur le territoire d'Aubagne-la-Ciotat. Donc on a été partenaire, et on l'est toujours d'ailleurs, donc avec Mémoire et Santé sur ce... En fait, c'est un moment extraordinaire, ce sans fourchette. C'est une expérience olfactive qui vaut son pesant d'or, à la fois pour les personnes qui participent, que ce soit des personnes malades ou leurs aidants, mais aussi pour les élèves qui contribuent à participer à ce beau moment, et pour des grands chefs comme vous, monsieur, qui avez eu la chance, parce que je considère que c'est vraiment une chance, de pouvoir se détourner d'un moment de son art premier, on va dire, pour le revisiter. Alors c'est vrai que la cuisine aujourd'hui se revisite beaucoup, hein, par rapport à il y a plusieurs années en arrière, mais en tout cas c'est une expérience extraordinaire et j'invite tout le monde ici à participer à une telle expérience si vous en avez l'occasion.
Merci pour ce beau témoignage, hein, c'est une magnifique conclusion. On vous applaudit très fort et on espère vraiment que ça va exploser comme ça le mérite. Merci infiniment Nadia, merci Luc et merci cher chef.